Il est presque 14h45 sur France Culture et c'est l'heure de prendre le chemin de la bibliothèque idéale de l'écho. Comme chaque vendredi, on vous propose un essai qui a marqué l'histoire de la pensée économique. Aujourd'hui, nous entrons dans les pages de l'introduction à l'économie politique de Rosa Luxembourg. Bonjour, Michael Louis.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, philosophe et auteur de Rosa Luxembourg, l'étincelle incendiaire, paru cette année aux éditions Le Temps des Cerises. Alors, on connaît Rosa Luxembourg en tant que militante révolutionnaire. On la connaît moins comme théoricienne de l'économie. Et pourtant, elle est souvent considérée comme la première femme économiste de l'histoire, Michael Louis.
Je pense qu'au 19e siècle, il y avait Henriette Martineau. Enfin, il y avait d'autres femmes économistes. Mais peut-être la première économiste marxiste importante, c'était Rosa Luxembourg.
Est-ce que vous pourriez nous retracer son parcours en quelques mots de la Pologne où elle naît en 1871 à l'Allemagne en passant par la Suisse?
Oui, donc elle est née dans une famille juive en Pologne. Très tôt, elle s'est engagée dans le mouvement révolutionnaire, socialiste. Elle est partie en Suisse pour faire un doctorat sur le développement économique de la Pologne.
Elle part à Zurich, qui est alors un grand centre marxiste, révolutionnaire.
Pas du point de vue des Suisses, mais du point de vue des exilés, notamment russes ou polonais, qui se trouvent là-bas, effectivement, oui. Elle a vraiment envie de partir en Allemagne, parce que l'Allemagne, c'est le centre du mouvement ouvrier à cette époque, fin du 19e siècle, le lieu de le centre de la pensée marxiste aussi. Donc, elle part en Allemagne. Bon, elle fait un mariage blanc, elle obtient la citoyenneté allemande.
Elle se dit même que l'Allemagne est le seul lieu où une révolution pourrait aboutir.
C'est le pays où le mouvement ouvrier est le mieux organisé, où le marxisme a une influence très importante. Bon, elle a envie d'être là, en Allemagne.
Elle part effectivement en Allemagne en 1898 et elle va adhérer assez rapidement au Parti social-démocrate allemand.
Voilà, elle adhère au Parti social-démocrate allemand, qui était le grand parti marxiste en Allemagne à cette époque. Et tout de suite, elle va se situer dans l'aile gauche du parti. Et elle va devenir rapidement très connue dans le parti et même dans tout le mouvement socialiste européen par une polémique contre le représentant de l'aile droite, disons, du parti, qui était Edward Bernstein, qui proposait une révision du marxisme et une voie plus réformiste, disons, pour aller vite. Donc elle polémique contre Bernstein dans un livre qui la rendra célèbre. Il s'appelle « Réforme ou révolution ». Où elle explique que les marxistes ne sont pas contre les réformes. Simplement, ils pensent que pour changer la société, il faudra un mouvement révolutionnaire.
Et puis, il va y avoir cette première trahison, ou ce qu'elle va vivre comme une première trahison, c'est ce vote en 1914 de la quasi-majorité des députés du SPD en faveur de la guerre.
C'est ça. Ça va être un choc, un traumatisme pour elle, pour toute la gauche internationaliste en Allemagne, en Europe, que le dirigeant du parti social-démocrate, pas seulement en Allemagne, mais dans presque toute l'Europe, vont se rallier à la guerre. Comme elle dit, ils ont remplacé prolétaires de tous les pays, unissez-vous, par prolétaires de tout le pays, égorgez-vous les uns aux autres. Donc elle voit ça comme une trahison. Et elle organise avec d'autres, Karl Liebknecht, etc., la résistance internationaliste à cette capitulation.
Ce qu'il faut dire, c'est que pendant toute cette période, depuis son arrivée en Allemagne, elle va être arrêtée à plusieurs reprises. Et pendant la Première Guerre mondiale, notamment, elle va passer quasiment la totalité de la guerre en prison.
C'est ça. Elle va passer plusieurs années en prison à cause de son activité antimilitariste et anti-guerre. Et c'est en prison où elle va écrire un certain nombre de textes importants. Il y a aussi ses lettres de prison qui sont très émouvantes, qui montrent tout le caractère profondément humain et en même temps très combatif, intransigeant du personnage.
Et c'est pendant qu'elle est en prison qu'elle va apprendre la révolution d'octobre 1917 en Russie. Et alors, est-ce que cette révolution est une révolution bourgeoise et non prolétarienne, comme elle le prédisait une dizaine d'années plus tôt, selon elle ?
La révolution commence en février comme une révolution démocratique contre le tsar, mais au cours de quelques mois, elle va se radicaliser et aboutit en octobre 17 à une révolution socialiste, disons, et la prise du pouvoir par l'aile gauche du mouvement ouvrier russe. Elle se solidarise avec cette révolution, mais elle suit avec inquiétude certaines évolutions du nouveau pouvoir révolutionnaire en Russie. Et elle écrit en prison une brochure qui sera publiée seulement après sa mort, où elle tente de faire un bilan de cette révolution russe, où à la fois elle se solidarise avec les révolutionnaires russes en disant « Lénine et Trotsky, vous avez sauvé l'honneur du socialisme international », mais en même temps elle prend une distance critique sur la question de la démocratie. Vraiment, elle était prophétique parce qu'elle a dit « bon, vous limitez les libertés démocratiques, vous dissolvez l'Assemblée constituante, vous interdisez les autres partis ». C'est une voie dangereuse qui va conduire au pouvoir de la bureaucratie.
Avant d'en venir à son œuvre, Michael Lowy, un dernier mot sur sa biographie. Elle a été assassinée, on le sait, alors c'était il y a 100 ans, le 15 janvier 1919, au moment d'une révolution oubliée, la révolution spartakiste, du nom de ce mouvement qu'elle avait elle-même créé.
Elle avait créé la Ligue Spartacus. C'était les mouvements de la gauche internationaliste en Allemagne vers 1915. Mais début de 1919, la Ligue Spartakis va s'unifier avec d'autres petits groupes pour former les partis communistes allemands. Tout de suite après, il y aura une insurrection ouvrière à Berlin.
Oui, le parti est créé 15 jours avant sa mort, le 1er janvier 1919.
Voilà, c'est ça. Il y aura un vrai soulèvement ouvrier. Elle trouve qu'il est prématuré, mais elle se solidarise quand même avec le mouvement. Et le gouvernement social-démocrate de droite, disons, pour aller vite, réprime ces soulèvements et mobilise pour cela des groupes paramilitaires qui s'appellent les Corps Francs, des groupes d'extrême droite, et il va les jeter contre la gauche, et ces Corps Francs vont assassiner Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht et d'autres dirigeants du mouvement.
Et son image a été largement entachée, Michael Lowy, pendant longtemps, autant par les conservateurs et les nazis que par les orthodoxes staliniens.
Effectivement, pour la droite, les fascistes, elle était l'ennemi numéro un. Bon, pour les staliniens, elle était une déviationniste, une spontanéiste, une adversaire du léninisme. Bon, mais c'est pas la même chose. Hein. Elle n'était pas vue comme un ennemi, mais simplement comme quelqu'un qui n'était pas dans la ligne juste. Quoi.
Et alors pourquoi et dans quel contexte entreprend-elle la rédaction de son introduction à l'économie politique qui nous intéresse aujourd'hui?
Eh bien, c'était un cours qu'elle a donné à l'école du parti. C'est-à-dire les dirigeants du Parti social-démocrate, August Bebel, Wilhelm Liebknecht, la trouvaient un peu trop gauchiste, mais en même temps, ils la respectaient beaucoup. Et ils voulaient qu'elle contribue à former le cadre du parti. Donc, quand ils ont créé cette école de formation, ils ont demandé, entre autres, pas seulement, mais à Rosa Luxembourg, de donner des cours à cette école. Et elle a donné des cours d'introduction à l'économie politique. Et les notes pour ces cours, elle préparait la publication de ses notes comme une introduction, mais après, elle n'a pas pu le compléter. Et voilà, ça a été publié bien après sa mort, dans les années 20.
Et alors, dans ce livre, elle détaille ce qu'on appelle la société communiste primitive. Oui. De quoi est-ce qu'il s'agit, Michael Lowy?
Alors, c'est très curieux parce que, bon, les livres marxistes classiques sur l'introduction à l'économie politique commencent, comme Marx, avec la marchandise, le capital, etc. Et elle a eu envie de commencer avec les sociétés pré-modernes, pré-capitalistes, primitives, ce qu'elle appelle le communisme primitif, qui existait dans tous les pays. Une forme de société où il y avait une très grande égalité, où les femmes n'étaient pas opprimées, et où la production n'avait pas pour objectif de produire des marchandises, etc., mais de produire des biens d'usage. Donc il y avait une autre logique économique. Il n'y avait pas de propriété privée. Bon, donc ça l'intéresse beaucoup, à la fois pour montrer que la propriété privée n'est pas éternelle, et pour montrer, voilà, il faudrait nous inspirer d'une forme de production qui a pour objet de produire des biens d'usage et pas des marchandises.
Et quels exemples de ces sociétés communistes primitives
Alors, elle donne un exemple que Marx et Engels avaient déjà mentionné, la marche allemande, qui était une communauté paysanne germanique ancienne. Mais elle montre comment ça existait partout dans le monde, en Inde, en Amérique latine, au Pérou. Elle parle du communisme inca, c'est une expression intéressante. Elle essaie de montrer que c'est un phénomène qui existait dans tous les continents et qui existait encore au 19e siècle, au début du 20e, dans les pays de la périphérie, en Inde, en Afrique du Nord, un peu en Amérique latine, et que le colonialisme et l'impérialisme étaient une guerre à mort du capitalisme pour en finir avec ce qui restait de ce communisme primitif pour établir la société capitaliste, marchande, etc.
Et justement, sa théorie de l'impérialisme, elle va la développer dans un autre ouvrage, l'accumulation du capital. Voilà. Elle s'interrompt finalement dans l'écriture de l'introduction à l'économie politique pour écrire ce nouvel ouvrage.
Oui, mais bon, il y a une certaine continuité. Ces thèmes du combat du colonialisme, de l'impérialisme européen contre la communauté primitive, contre le mode de vie des peuples de la périphérie, c'est un thème commun entre les deux ouvrages.
Dans l'accumulation du capital, elle cherche à expliquer comment le capitalisme survit alors que Marx estimait que les contradictions internes du système entraîneraient son effondrement.
Elle partageait la conviction de Marx que le capitalisme était voué à l'effondrement à cause de ses contradictions internes. À mon avis, c'est la partie la plus discutable de son œuvre. Bon, je pense que là, elle s'est trompée, comme Marx aussi ou d'autres. Bon. Mais jusqu'en 1914, c'était une conviction partagée par presque tout le marxiste. Justement, la crise de 1914 va la faire changer d'avis. Et c'est là où elle écrit un texte célèbre qui s'appelle la brochure Junius, où elle écrit « Socialisme ou barbarie ». La fin du capitalisme et l'avenir socialiste ne sont pas inévitables. Hein. Il peut y avoir aussi une forme de barbarie moderne. Donc, elle va changer sur ce point-là.
Pourquoi, selon vous, faut-il lire aujourd'hui l'introduction à l'économie politique de Rosa Luxembourg, Michael Lowy?
Il parle d'une thématique qui est très actuelle, à mon avis, parce que ce qu'on voit aujourd'hui dans beaucoup de pays, mais je m'intéresse beaucoup à l'Amérique latine, alors c'est très évident, les communautés indigènes qui gardent certains éléments de ce passé communiste primitif, disons, des habitudes de vie communautaire, de pratiques collectivistes, etc., et surtout un rapport à la nature qui est différent de celui du capitalisme moderne. Donc, il y a un conflit là. Quand les entreprises multinationales, l'agro-business veulent, disons, détruire l'environnement, ces communautés indigènes luttent pour défendre leurs terres, leurs forêts, leur eau, n'est-ce pas? Et bon, voilà, ça reprend un peu le conflit dont parle Rosa Luxembourg dans l'introduction à l'économie politique. Donc ça donne une actualité inattendue, disons.
Et comment se manifeste, selon vous, l'héritage de Rosa Luxembourg, qui est encore une figure importante pour beaucoup de gens?
C'est un héritage disputé, évidemment. Les héritiers du communisme soviétique gardent toujours leurs réserves, les sociodémocrates aussi. Mais, disons, les courants les plus radicaux du mouvement ouvrier, de la gauche, du socialisme, du communisme, s'inspire beaucoup dans les idées de Rosa Luxembourg. Il n'y a pas un luxembourgisme comme une orthodoxie, hein, quelque chose, un système fermé. Mais il y a un esprit luxembourgiste qui est un esprit révolutionnaire, libertaire, démocratique, qui est très actuel, je pense, pour la pratique et la réflexion de la gauche radicale aujourd'hui.
Merci beaucoup, Michael Lowy, de nous avoir fait redécouvrir cette icône révolutionnaire. Je renvoie les auditeurs à votre livre, Rosa Luxembourg, l'étincelle incendiaire, paru au Temps des Cerises. Et je rappelle également que l'ouvrage de Rosa Luxembourg, Introduction à l'économie politique, a été publié aux éditions Agone.